RMC.
Je n'ai ni diplôme de médecin ni d'avocat. J'ai juste une licence de grande gueule.
10h, 13h.
Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond.
Alain Marchal.
La finance, c'est du baratin, du bluff. La poudre aux yeux.
Les grandes gueules.
Petit diable de beau parleur.
Ah, on voit les profs, hein. Fatima Ibounois, professeure de français au collège en Seine-Saint-Denis, elle est avec moi en studio. Et on voit les mauvais élèves. Marianne Soubré, avocate et le conseiller en investissement financier Franck Tanguy. Alors, ils font la pause café.
Ils ne sont pas arrivés.
Et ils prennent leurs aises. Et puis, ils reviennent tranquillement, comme si de rien n'était. Oh, bah oui, on buvait un petit kawa
oui,
et
tout. Oui, on avait décidé de ne plus revenir d'ailleurs. Puis on a
non, mais forcer. Je parlais foulard du bas avec Franck. Voilà, j'ai adoré l'expression.
Ça papote. Donc, notre avocate, notre conseiller en investissement financier, notre prof de français sont les grandes gueules du jour. Et ils sont avec vous depuis 10h jusqu'à 13h. Je sais que ça a beaucoup réagi là tout à l'heure sur les soldats, la Centrafrique, sur la jupe, nouveau signe religieux ou pas. Vous avez le GG vous à votre disposition au 32-16. Hein, tout à l'heure, à 12h40, vous pouvez reprendre la parole avec Fatima, avec Marianne, avec Franck et leur dire...
Et on aurait dû inviter Christina. Ma chérie, une jupe longue, c'est pas
magnifique.
Possible.
C'est pas magnifique.
Et de mieux mettre un legging, ma chérie.
C'est n'importe quoi.
32-16 tout à l'heure pour reprendre la parole dans le GG et vous, bien sûr. D'ici là, que va-t-il se passer dans les grandes gueules? Le grand oral des GG, c'est avec Dovatia, le producteur de La Légende du Roi Arthur. C'est la nouvelle comédie musicale. Ce sera l'événement à la rentrée prochaine avant la tournée Dovatia pour parler avec lui de l'investissement. Parce que ça nécessite beaucoup d'argent, les comédies musicales. Et on n'est jamais sûr que ça marche. Dovatia en général, ça marche plutôt pas mal. 1789, Les Amants de la Bastille, Le Roi Soleil, La Nouvelle Star en général. Il a du pif, Dove, et ça marche plutôt bien. On parlera avec lui, bien sûr, de la comédie musicale, de l'actualité. Il réagit à tout, Dovatia, il passe le grand oral des GG. Midi moins 5, le match des grandes gueules, vous m'envoyez match par SMS au 732-16 et vous gagnez un séjour d'une semaine pour 6 personnes dans le Lot. Ne ratez pas notre GG du jour dans un quart d'heure, en direct avec nous, en studio, Manuela Weller. Chronique garantie sans eau de rose, c'est un livre aux éditions Fayard. C'est Marianne qui l'avait remarqué, elle voulait en parler avec nous. Fuck my cancer, fuck mon cancer, merde à mon cancer. Elle raconte sa vie de femme de 55 ans avec un cancer du sein métastatique. Femme de caractère, elle se décrit comme ça, une véritable emmerdeuse. Et elle parle sur son blog et dans ce livre de son cancer du sein, de l'évolution de la maladie, de la solitude du malade, de la manière dont elle se vit femme aujourd'hui avec ce cancer du sein, du dialogue qu'elle peut avoir ou ne pas avoir avec les médecins, avec un psychologue à l'hôpital qui s'appelle docteur Nichon.
Non mais ça c'est
le
incroyable.
Le docteur Nichon à l'hôpital et qui vient parler cancer. C'est génial. Je vous jure, écoutez-la tout à l'heure, Manuela avec nous, on l'a fait notre GG du jour.
Tu sais ce qu'elle m'a dit sur Twitter, elle a quand même tweeté un truc incroyable pour vous dire qui est Manuela. Elle me dit, je lui dis, ah c'est bien, tu viens dans les GG. Elle répond, je viens comme je suis sans mes et avec mon cancer, point d'interrogation. Et voilà, Manuela, c'est ça. Elle vient sans cesse avec son cancer et surtout avec toute son intelligence et son humanité. Et on adore ça.
Mais ça peut choquer de parler aussi de cette manière du cancer aujourd'hui, d'une telle manière. Ouais, elle est grande gueule avec son cancer. C'est à 11h20, Fuck My Cancer, le livre est aux éditions Fayard. Et elle en parlera avec nous tout à l'heure. Donc on en a fait notre GG du jour. Avant le pays d'Hollande, écoutez bien le rendez-vous que vous donnent les grandes gueules la semaine prochaine. À partir de lundi jusqu'à vendredi, on vous présentera les audacieux.
RMC, les grandes gueules, les audacieux.
C'est pas du tout pompeux, grandiloquent comme musique pour annoncer ça. Mais oui, mais que on n'arrête pas de dire justement que en France on ne peut pas tenter. C'est difficile de réussir. C'est difficile de lancer une boîte quand on a une bonne idée. On ne trouve jamais les relais, les financements pour la faire prospérer. Eh bien nous, on en a trouvé une nouvelle génération qu'on appelle les audacieux. Ils ont réussi dans leur domaine d'activité. Et on vous les présentera la semaine prochaine. Mathieu Paco, ils passeront le grand oral des GG, 34 ans, plus plus jeune chef 3 étoiles de France. Il a pris en main l'Ambroisie, Place des Vosges. C'est l'un des restaurants les plus connus dans le monde entier. Mathieu Pacot, Franck Hannaise, 38 ans, cofondateur du groupe Sopress, toujours avec sa casquette, sa barbe de 3 jours, sa chemise à carreaux. C'est lui qui a lancé, alors qu'on dit que la presse écrite s'écroule.
So foot.
So
film.
Society.
Ouais, il y en a un autre.
j'allais dire un truc complètement débile. Donc,
j'y serai ce jour-là.
Bon, d'accord. Non, mais j'allais dire saucisson. C'est nul, hein. C'est très très mauvais, excusez-moi.
On a Sonia Sweet, 29 ans, agent de joueur de football. Adrien Dumont, 30 ans, cofondateur du site de crowdfunding Kiss Kiss Bang Bang. Vous savez, vous, il récolte des fonds, il cherche des projets, ensuite il finance ça, c'est vachement bien.
Deux autres sites de crowdfunding, hein, c'est de là.
Alexandre Chartier, 29 ans, cofondateur de Ornicar, un modèle alternatif d'apprentissage de la conduite. Ils ont eu de bonnes idées, ils ont su les mettre en avant, les faire avancer. C'est une réussite. Les audacieux, ils seront avec nous la semaine prochaine, passeront de grand oral des GG.
RMC, les grandes gueules.
Moi, président de la République,
au pays de l'Onde.
Le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant.
Au pays de l'Inde, on a des Français qui sont rentrés du Népal après avoir vécu l'horreur du tremblement de terre. Ils sont survivants, ils sont rescapés et puis ils assénaient quelques vérités au ministère français des Affaires étrangères et à l'ambassade de France. C'était ce matin, témoignage sur RMC.
On a essayé d'aller frapper à la porte de l'ambassade française. On nous a fermé la porte au nez, nous disant qu'ils avaient beaucoup de dégâts à l'ambassade, qu'ils ne pouvaient rien faire pour nous. Nous sommes repartis dans notre petit camp de fortune avec des Népalais. Et le troisième jour, nous avons donc pu pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade et l'ambassade n'était pas du tout touchée. Le mensonge est assez mal passé, c'est vraiment très très mal passé. Ouais.
Alors moi je veux comprendre la part de vérité dans cette histoire parce qu'on peut comprendre que l'ambassade française aussi ait peut-être été dépassée, mais si elle a fermé la porte aux ressortissants français qui avaient besoin eux de renseignements, d'informations, de savoir quand ils rentraient, c'est gênant. Ou alors on s'est comporté là-bas aussi comme des enfants gâtés en disant bon allez nous allez il est temps qu'on rentre quoi nous les Français il y a suffisamment à faire avec les autres Franck Tanguy.
Écoute moi toutes ces remarques m'agacent énormément, je trouve que les Français font la preuve une fois de plus que ce sont des assistés qui ne peuvent pas s'en sortir. Quand on sait que l'ambassade de France dans un si petit pays, dans un des pays les plus pauvres du monde, qu'est le Népal, emploie une grande majorité de locaux, ces locaux ils étaient forcément touchés par les événements, ils avaient forcément leur famille qui avait soit disparu soit qui était injoignable. Donc l'ambassade, elle était forcément quasiment inopérante.
Oui, mais sauf qu'ils disent qu'elle n'est pas en bon état. Or, visiblement, elle l'était lorsqu'ils ont passé les grilles de l'ambassade. C'est ce qu'ils disent, ces témoignages.
D'accord. Peut-être. Je ne connais pas parce qu'on n'a qu'un seul témoignage et faudrait-il le croiser avec d'autres. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois de plus, et en plus, cette personne qui témoigne, comme par hasard, elle est au pied de l'avion à Roissy. Donc ça veut dire que ça ne s'est pas si mal passé pour elle.
Moins de 5 jours à moins d'une semaine
donc,
après le tremblement.
Donc ça veut dire, dans un pays qui est complètement désorganisé, où il y a au minimum 5000 morts, mais probablement des dizaines de milliers de plus, de gens qui ont disparu, de bâtiments qui ont été détruits, enfin c'est le plus grand séisme au Népal depuis 1940 ou 1930.
Donc on devrait faire prendre un peu de décence.
Mais moi je trouve que c'est parfaitement indécent, et encore une fois, les Français sont des enfants gâtés.
Fatima.
Moi je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis les Français sont désassistés. Non, parce que là quand même, dans cette situation-là, je peux comprendre et je trouve ça, j'ai envie d'entendre ce genre de témoignage aussi pour savoir s'il y a dysfonctionnement ou pas. Mais comme tu as dit, en revanche, un témoignage n'est pas suffisant. Mais les Français assistés, non, dire ça, ce n'est pas être un assisté.
Ce sont des gens qui étaient sur place,
voilà,
qui ont vécu aussi un moment de désarroi, un moment aussi
de peur intense.
Et ils attendaient des réponses de la part de l'ambassade Marianne Soubré.
Tu sais quoi, voilà, on a beaucoup de polémiques, etc. Je me suis pas mal énervée ce matin. J'ai pas envie de m'énerver là-dessus. J'ai envie, puisqu'on est partenaire, puisque RMC est partenaire de la Fondation de France, de dire aux gens, envoyez vos dons. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Le Népal, il y a des orphelins par dizaines. Ils vont mettre des années. Je suis pas sûre que les Chinois, même s'ils ont envoyé des gens, je suis pas sûre que les Chinois les aident beaucoup. Voilà, ben envoyez vos dons.
Ah, mais est-ce que tu trouves, du coup, c'est quand même déplacé de aller après l'ambassade de France ce matin ou pas?
Je suis pas loin d'être d'accord avec Franck sur le côté un peu.
Ça peut ne pas t'arracher la figure non plus, hein, tu sais. Je veux avec bonheur dire, je suis d'accord avec mon camarade Franck. Nous tendons la main.
Je suis
nous
d'accord
boire un
avec mon ami Franck qui ne connaît strictement merci. Rien à l'habillement féminin, mais qui sur d'autres
je
points.
Te surprendrais.
Sur d'autres points. Non, me raconte pas.
Ma connaissance
je
de
préfère,
la mode. Ma connaissance de la mode.
S'il te plaît, Franck, ne me raconte pas.
J'ai travaillé pendant des années dans la mode.
Ça fait peur. Je te surprendrai. On t'imagine essayant une jupe longue comme ça.
Je n'ai peur de rien. J'assume ma féminité si besoin est.
Cela dit, puisque Marianne le disait, vous savez qu'RMC est partenaire avec la Fondation de France. Avec Action contre la faim aussi. Donc,
ah, pardon, d'accord.
Pouvez,
je croyais que c'était.
Faites vos dons, allez sur notre site internet et vous trouverez toutes les modalités. On a une petite histoire à vous raconter qui vient du côté du Tarn-et-Garonne, qui est aussi croquignolette. Cette histoire du Tarn-et-Garonne, vous savez, sont les élus du département du Tarn-et-Garonne qui ont décidé d'augmenter de 23% leur indemnité. Pourquoi? C'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal parce que, en fait, ils viennent de passer la tranche de bassin de 250 000 habitants. Donc, ces élus pouvaient s'augmenter de 33%. Finalement, après un débat au sein de l'Assemblée départementale, vous savez que c'est la majorité de Jean-Michel Baillet a chuté, elle a basculé l'Assemblée départementale du Tarn-et-Garonne. Le groupe socialiste a demandé que la hausse soit ramenée à 23%. Donc, on n'a pas pris 33, mais les élus ont accepté 23 avec 3 ans plein jeune. Voilà quelle a été la négociation. 7 conseillers parti radical de gauche ont voté contre, les autres ont dit OK. Je vois Dodeliner là.
Bravo aux 7 conseillers PRG qui ont voté contre. Voilà, c'est un scandale. C'est qu'ils avaient le droit. Ouais, ok. C'est ce qu'on appelle un abus de droit. Enfin, tu vois. Ouais, t'as le droit, mais moralement, t'as pas le droit. C'est tout. Donc, juridiquement, ils avaient le droit. Moralement, ils avaient pas le droit. Ils font une cote mal taillée en disant, oh, allez, on va pas faire les 33 auxquels on a droit. On va faire 23 seulement. Moi, je pense que les seules personnes qui sont raisonnables et cohérentes, ce sont les 7 élus PRG qui ont voté contre.
Et surtout le
que je félicite.
Et le paradoxe, c'est de faire une campagne sur le thème des économies et de s'augmenter après. Donc on a toujours, c'est la formule, ils vont à la soupe. On a vraiment l'impression, voilà, qu'ils vont, que c'est...
Leur intérêt personnel qui prime.
Oui, là, pour le coup, ça donne cette impression-là. Et puis surtout, c'est paradoxal, c'est
donc
pas
si,
cohérent.
Si je te suis, ils devraient même y renoncer, dire mais publiquement, on a fait une erreur.
Alain, s'ils n'étaient pas déconnectés, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a un problème aussi, un désamour tel avec nos élus? C'est parce qu'ils sont déconnectés, ils croient qu'ils peuvent, parce que de toute façon, la loi est de leur côté, mais morale, elle est où la morale dans l'histoire? Enfin, je veux dire, ces gens-là... Est-ce qu'ils vont encore sur les marchés? Je me le demande. Mais quand ils iront sur les marchés, je demande à tous les gens de bien leur rappeler ce qu'ils viennent de faire.
C'est de voter leur augmentation. Franck?
C'est drôle parce qu'hier, j'étais dans une entreprise pour parler d'épargne salariale et la personne avec laquelle je parlais me disait que les salariés avaient été augmentés de 0,5% au titre de leur salaire en 2014. Donc évidemment, des gens qui ont leur revenu d'augmenter de 23%, ça laisse rêveur, je crois, la plupart des Français. Je voudrais mettre ça en connexion avec le fait qu'un conseiller de Paris, récemment, qui est écologiste, vient de demander une baisse de son indemnité parce que lui estimait qu'avec la charge de travail qu'il avait... C'était Yann Verling, exactement. Avec la charge de travail qu'il avait, et par ailleurs, les gratifications, c'est-à-dire les jetons de présence que touchent les conseillers quand ils font partie de sociétés d'économie mixte, il estimait qu'il était trop payé. Donc je trouve que là, il y a un lien qui doit être fait entre le travail qui est fait par ses conseillers, dont on sait par ailleurs qu'ils sont pléthoriques et dont l'utilité peut être relativisée, en tout cas le grand nombre devrait être très largement diminué, leur rémunération et puis la position que d'autres prennent quand ils, eux, sont vraiment connectés avec la vie.
Ouais, c'est donc un peu hors sol tout ça, comme on dit communément aujourd'hui. Au pays d'Hollande, on a une bonne nouvelle économique, les amis, la France va vendre des rafales au Qatar. Après les 36 à l'Inde, les 24 à l'Égypte. A priori, c'est en bonne voie. Et Laurent Fabius avait dit, vous verrez, ça ne sera jamais 203. On va vendre 36 appareils au Qatar. Alors le Rafale, ça fait longtemps qu'on essaie de le vendre. Puis là, on a une bonne passe là. C'est des contrats qui se montent en plusieurs milliards d'euros. Alors certains disent que l'Égypte, on va lui prêter l'argent pour qu'elle les achète, mais qu'elle ne remboursera jamais. L'Inde, a priori, là oui, ce sera du sonnant et du trébuchant. Et le Qatar. Je pense pas que le Qatar ait des soucis de trésorerie. Ouais. Normalement, il devrait pouvoir arriver à nous le vendre. Sauf que, on va dire, attendez, c'est quand même assez baroque de vendre des avions de combat à un pays qui a un rôle un peu trouble dans les conflits du moment, dans la zone justement du Proche et du Moyen-Orient. Choqué qu'on vende des avions au Rafale ou pas, ou la raison économique doit primer, Franck, Marianne et Fatima?
Concernant le Rafale, on a fini de rire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on se faisait des gorges chaudes du Rafale.
6 milliards et demi d'euros le contrat, quand même.
Exactement. L'avion, le plus bel avion du monde qui n'arrivait pas à être vendu, il arrive maintenant à être vendu. Et si je puis dire, en Rafale, ce qui est une très bonne nouvelle. Je dois dire que moi, j'ai une admiration très importante pour la famille Dassault, pour Marcel Dassault, qui fut un pur génie de l'aviation, pour son fils qui a créé Dassault Systèmes. On voit bien l'excellence de cette famille. Je suis ravi parce que ça veut dire...
Ça vient sur le tard, hein, sur le Rafale.
Oui, ça aura mis du temps, ça aura coûté beaucoup d'argent, certes, mais maintenant, il y a des emplois qui vont être développés, voire même la société Dassault risque d'être un petit peu dépassée par les événements, parce que faire un Rafale, ça prend énormément de temps, qu'il n'y a finalement pas tant d'entreprises. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'autour de Dassault, il y a un écosystème de PME françaises qui vont contribuer à la construction. Et que ça n'est pas si simple de trouver des sociétés pour monter en puissance. Donc maintenant, on en est à un phénomène un petit peu d'entonnoir où les sociétés, les pays vont se battre pour être les premiers à être livrés. Ça me semble passionnant et un retournement de situation spectaculaire.
Le Rafale qui effectue des sorties aériennes dans la lutte contre l'État islamique.
Ça a été une vitrine de démonstration.
C'est la meilleure pub qu'il puisse se faire. Marianne.
Moi, j'ai envie de te dire, si tu veux pas vendre des Rafales, faut arrêter de les fabriquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. À un moment, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. T'as des avions, tu sais même plus à qui les fourguer au bout d'un moment. Donc, ils les fourguent. Ça, c'est la réelle politique. Après, nos rapports avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec tous les Émirats, si tu veux, devront de toute façon un jour être mis complètement à plat pour qu'on sache qui fait quoi, qui prend de l'argent de qui. J'ai entendu Bruno Le Maire, qui a été un des seuls à poser la question et à demander quels étaient les liens, effectivement, entre certains hommes politiques français, ou même l'État français, et le Qatar notamment, ou l'Arabie Saoudite. La vraie question est là. Qui est financé par qui? Le Qatar a beaucoup d'argent, et cet argent-là, effectivement, sert à la fois à financer le PSG, pourquoi pas, le PSG ou d'autres clubs de foot, pourquoi pas, mais quand c'est l'État islamique, là c'est beaucoup plus gênant. L'argent du Qatar, il va où exactement, et il va dans la poche de qui?
Tu vois, sur Twitter, Sand Trooper qui m'écrit en une ligne et demie, on vend des Rafales au Qatar, avec pays qui finance l'État islamique, mais on refuse de vendre des Mistral à Poutine.
Non mais c'est ça,
où le contrat est signé.
Sûr.
Donc c'est quand même assez paradoxal, me dit-il sur Twitter.
Mais posons-nous et mettons vraiment à plat nos relations avec le Qatar, parce que c'est une vraie question, et qu'il y a des hommes politiques, mais pas qu'à droite, moi je pense, et j'en suis intimement convaincue, qu'il y a aussi des hommes politiques de gauche qui ont été financés ou qui sont toujours financés aujourd'hui par le Qatar. Et là, une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à réfléchir, est-ce qu'on leur vend des Rafales ou pas? Parce que, si tu veux, là, on est dans entre les deux.
Enfin, on fait partie, de toute façon, la France est partie des grands pays marchands d'armes, hein, les armes françaises.
Ah, mais bien sûr.
Partout dans le monde en
États-Unis, Russie, Israël, je crois que ça doit faire le trio, le quatuor de tête avec la France.
Mais je te dis, si tu veux la pas Russie. En vendre, il faut arrêter
Russie,
de les fabriquer.
Ouais. États-Unis, hein, Russie, Israël.
Oui. Peut-être la Chine aussi.
Je crois que
mesure. Fatima,
ouais.
Choquée?
Non, pas choquée, mais effectivement, on va devoir éclaircir les choses parce qu'on ne pourra pas longtemps.
Enfin, on va pas avoir peur que le Qatar retourne les Rafales contre nous, de toutes les manières. C'est
mais
pas
pourquoi
ça.
Non, c'est pas ça l'idée.
Mais
c'est possible aussi.
Mais quand quand tu vends une arme à quelqu'un, un jour ou l'autre, elle peut être utilisée contre toi, quelle que soit la personne à qui tu la vends.
Hein. Enfin, je vois mal le Qatar utiliser des avions de chasse contre la France ou contre des intérêts français quand même, quoi, si tu
veux. Là, effectivement, il y a eu un effet d'entraînement avec la vente. Il y a eu l'Égypte et tout ça, donc il y a un effet d'entraînement. Effectivement, ça va lancer ça va relancer la production, les rythmes de production. Donc, on peut se réjouir d'un point de vue économique, mais on ne pourra pas longtemps être un peu schizophrène entre se réjouir d'un point de vue, dissocier l'économie et la morale. Donc, un moment, on devra sans doute se poser des questions. Et j'allais justement soulever la question des relations entre homme politique et Qatar.
Ouais,
on se demande pas si les Qataris portent des jupes longues ou pas.
Une industrie.
Non.
Une
industrie. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont des jupes très très longues.
Ah, non, c'est pas un signe religieux, c'est vestimentaire uniquement.
Là, c'est
la mode.
Ah, le Qatar n'est pas un pays musulman.
Les hommes ont le droit de porter des vêtements longs. C'est uniquement pour la chaleur, là. Enfin, c'est pas un signe religieux, Marianne. Là, tu me trompes.
C'est un peu comme pour les noirs fortunés où on disait on s'achète une couleur. Là, j'ai l'impression que pour les musulmans, il y a aussi ça. Il y a s'acheter une respectabilité quand on a des billets.
Avoir une industrie de l'armement puissante, c'est un véritable signe d'indépendance nationale. Mmh. Donc, on peut se moquer de Dassault ou des autres sociétés qui s'occupent de l'armement. Il n'empêche que la France est puissante dans le monde parce qu'elle est crédible. Et elle est crédible parce qu'elle a une industrie de l'armement.
Un dernier mot à propos de Charlie Hebdo et du dessinateur Luce qui, dans un entretien aux Inrecuptibles, annonce qu'il ne dessinera plus le prophète Mahomet. Stop, basta, dit Luce. Alors, non pas qu'il a peur, Luce, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, voilà, je me suis lassé, terminé. Vous savez, la une, tout est pardonné avec le prophète Mahomet, c'est lui. Et Luce dit, moi, je me lasse de ce personnage comme je me suis lassé de celui de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas passer toute ma vie à les dessiner. Je m'en suis lassé, basta. Terminé, dit Luce.
Mais il a le droit d'être lassé. Et d'ailleurs, je trouve que le parallèle avec Sarkozy est très bon, parce que si Sarkozy revient dans l'actualité, imaginons qu'il soit candidat au présidentiel, à un moment ou à un autre, le désir de Sarkozy venant de Luce reviendra peut-être. Donc on peut espérer que le désir de Mahomet ou de dessiner Mahomet revienne dans la plume de Luce. Ce qu'il faut espérer juste, c'est que le parallèle avec Sarkozy soit juste, mais que ce soit pas une soumission, un diktat de
finalement il a eu peur
contre le blasphème et tout ça, parce que ça c'est vraiment exactement contre, oui, exactement contre les valeurs de la République et de la laïcité.
On dirait le thème c'est les musulmans, le prophète, l'Égypte. Mais ce qui est dommage, c'est que justement dans l'interview de Luce était très longue, et il a parlé notamment de la loi qui est en train de passer sur le renseignement, et là c'est moins relayé, alors que je trouve ça intéressant. Il a peur, enfin il regrette que l'attentat soit récupéré à des fins politiques pour faire passer cette loi. Donc ça c'était intéressant. Il parle aussi de Val, et il dit que si Philippe Val revient à Charlie Hebdo, lui ne se voit pas rester. Ça pose aussi, et il dit que aussi Val parle pour lui-même lorsqu'il dit que les terroristes ont gagné, par exemple, que lui n'est pas du tout dans cette posture-là. Donc il y avait plein de choses intéressantes dans cette interview, et malheureusement on
sauf que c'est bel et bien le dessin de Mahomet qui a provoqué la tuerie de Charlie Hebdo.
Et on ne prend pas la suite. Enfin, il dit parce qu'il s'est lassé, et je pense pas du tout que ce soit par peur. Il peut se lasser d'un personnage, parce que ça reste un personnage.
Que ça soit ça.
Voilà. 11h26 à suivre notre Gigi du jour. Elle s'appelle Manuela Weiler. Elle signe Fuck My Cancer, Merde à mon cancer. Chronique garantie sans eau de rose, c'est notre grande gueule du jour. Un livre remarquable, remarqué par les GG, dont on va parler, et vous allez l'écouter, parler d'une femme de 55 ans, elle en l'occurrence, et de son cancer du sein.
RMC, Alain Marchal, les grandes gueules.
Les GG avec aujourd'hui dans les grandes gueules Franck Tanguy, qui est conseiller en investissement financier, Marianne Soubré, qui est avocate, Fatima Idbounoua, qui est professeure de français, et on va vous présenter une femme exceptionnelle, ou plutôt une femme normale et grande gueule. À tout de suite.
RMC, la grande gueule du jour.
Manuela Villers, bonjour.
Bonjour,
merci d'être avec moi. Approchez-vous bien du micro, Manuela, qu'on vous écoute, parce que vraiment, on ne peut pas rater votre témoignage. Le livre a été remarqué par Marianne, elle nous en a parlé, elle vous a remarqué aussi sur Twitter. On avait vu votre blog, Fuck My Cancer, Merde à mon cancer, si je traduis.
Nique mon cancer,
ouais,
c'est tout de suite moins chic.
Chronique garantie sans eau de rose, édition Fayard. Femme de 55 ans, cancer du sein métastatique, et vous vouliez en parler à la mode grande gueule.
Alors j'ai une grande gueule depuis très longtemps, sauf que c'était pas une grande gueule très publique. Et au moment où j'étais diagnostiquée, j'ai eu besoin de l'écrire. Comme je suis une femme qui était très connectée sur le web, j'ai ouvert un blog et j'ai écrit ce que je traversais, d'abord dans un mode très humoristique, et puis quand ça s'est un petit peu gâté, un peu moins humoristique et plus sérieux.
Alors aujourd'hui, c'est quoi ce cancer? Alors décrivez-le avant qu'on en parle et que vous parliez de votre aventure, entre guillemets. Vous narrez ça comme une véritable aventure, quoi.
Bah, c'est une
personnelle
aventure humaine
et médicale.
Ouais, oui, c'est une aventure. C'est pas une mésaventure, c'est une aventure. J'ai été diagnostiquée en 2013 pour un cancer du sein infiltrant. Il y a eu une petite erreur ce n'est pas métastatique, ce qui en soi n'est pas plus mal, mais les deux seins, que j'avais fort généreux, et j'ai fait le choix de demander à mon chirurgien une mastectomie bilatérale.
C'est-à-dire qu'on enlève tout.
On enlève tout. Et contrairement à Angelina Jolie, mon corps n'était pas un des éléments de ma vie professionnelle, et je n'ai pas le même âge, et j'ai traversé le traitement de ce cancer avec, les lecteurs le découvriront, pour pas mal de difficultés, non pas, je ne regrette pas une seule seconde mon choix chirurgical.
Mmh. Pourtant, dans un moment dans le bouquin, vous dites que ça vous a effleuré quand
alors,
même, ce regret.
Ce qui m'a effleuré, c'était de ne pas enlever ce cancer. C'est-à-dire que ma première réaction, après la longue, longue période de diagnostic, il a fallu 30 jours pour faire tous les examens, et ce qui semble être le délai moyen en France. Donc, c'est pas très réjouissant pour les malades. Mon médecin a fini par entendre que je souhaitais une double mastectomie. Lui, il voulait en couper des morceaux, faire du puzzle. Bon.
Et un des deux seulement, et puis analyser.
Oui, un autre en bout et l'autre en enlevé. Enfin, bon. J'ai pris cette décision vraiment, enfin, de manière spontanée, en parlant après avec mon mari, parce que ça nous concerne tous les deux, cette maladie. Mais surtout, le moment où j'ai regretté, on va dire, en tout cas, de m'être lancé dans le traitement de mon cancer, pas particulièrement la chirurgie, c'est que j'ai un type de cancer qui est très insidieux, très silencieux, parce qu'il existe des multitudes de formes de cancer du sein, il n'y a pas un cancer du sein. Et donc il y a des jeunes femmes, très jeunes femmes, et c'est là où cette maladie est la plus terrible, il y a des très jeunes femmes qui sont atteintes de formes extrêmement foudroyantes, qui leur laissent très peu de chances de survie, et donc ces jeunes femmes, il faut les diagnostiquer très vite pour leur laisser une chance de vivre. Moi, j'avais la chance d'avoir passé 50 ans. C'était mon deuxième cancer. Je suis une routière de la chose. J'ai pas de naïveté sur le corps médical. Et comme vous, vous l'avez lu, puisque vous avez lu le livre, je me colle à la réalité de près, je ne mets pas la tête dans le sable, j'affronte les choses.
Alors justement, ce livre, c'est vous affrontez la maladie, vous affrontez le regard des autres, vous affrontez votre propre regard, mais un mot quand même sur les médecins. Parce que ce qui frappe là-dedans, quand on est confronté à la maladie...
Oh, et les radiologues aussi.
Et les anesthésistes.
On va faire ça dans l'ordre. C'est-à-dire, un, on est confronté quand même au langage médical, la manière dont on décrit la maladie. Nous, on essaie d'en parler simplement dans les GG avec les mots de tous les jours, et là vous vous retrouvez face à des termes techniques qui ne disent pas les choses, et là c'est...
Alors, le cœur du problème, ça n'est pas les médecins. Moi, j'ai pas envie d'être ici pour attaquer les médecins, qu'on soit bien clair. Le cœur du problème, c'est le système de soins et le peu de place qui est fait à l'humanité, au traitement humain des malades. Les oncologues, les chirurgiens, on parlera des radiologues et des anesthésistes un peu plus tard, si vous voulez, mais sont confrontés à une patientèle, c'est-à-dire le nombre de patients que vos auditeurs comprennent bien, par an, qui est monstrueuse. Moi, j'ai eu la chance de choisir d'être aiguillée vers un centre d'excellence du traitement du cancer du sein. Il y a une inégalité territoriale sur le territoire français, mais même à Paris, en zone urbaine, encore plus dans les campagnes. Donc le problème, c'est où aller ? Est-ce que votre médecin généraliste va être de bons conseils ? C'est pas toujours le cas.
Moi, on est un peu paumé, quoi, en fait.
On est paumé. Les femmes, puisqu'on parle du cancer du sein et que j'ai pas envie de rentrer dans les chaussures de quelqu'un d'autre, j'ai déjà...
Mon
assiette est pleine.
Avec votre cancer et avec vos pompes,
voilà,
si je puis dire.
C'est ça. Moi, j'avais cette chance-là, ce que je raconte, de connaître quelqu'un qui connaissait et qui m'a aiguillé, mais je n'ai pas eu de traitement de faveur. C'est-à-dire, comme je ne suis pas une personnalité publique, je suis personne, moi. Je suis une nana normale qui est confrontée à une maladie qui touche 50 000 femmes par an. Et 11 000 de ces femmes meurent chaque... Enfin, c'est pas les 11 000, des 50 000.
Quoi, en fait.
Vous parlez du cancer du sein,
le
c'est
cancer
50 000
du sein,
femmes.
Les statistiques, c'est ça. C'est-à-dire 50 000 femmes, chaque année, 50 000 femmes, 48, 50 000, sont touchées par le cancer du sein. Alors, toutes n'en ont pas, parce qu'il y a des surdiagnostics.
Ça, c'est le fameux octobre rose.
On parlera du dépistage organisé, si vous voulez bien. Et en cumul, chaque année, 11 000 femmes meurent.
Mais comment on s'y retrouve dans ce parcours médical où on est un peu paumé avec le langage médical, où on ne sait pas trop vers
qui
aller?
Alors moi j'avais la chance de comprendre ce langage. Ouais. Hein. Donc je ne peux pas vous dire comment les autres s'y retrouvent, je ne parle pas au nom des autres malades.
Marianne.
Oui, non, moi je voulais quand même juste dire, parce que pour que les auditeurs aussi comprennent, c'est que ce livre, c'est le livre aussi de la distance de la malade face à sa maladie, et de l'humour, hein, parce que je veux dire, on rigole aussi avec ce bouquin, on rit avec toi. Alors je me permets de te tutoyer, oui. On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit, mais on s'est parlé parce qu'effectivement faut savoir aussi que Manuela, c'est la vigie sur Twitter. Quand vous êtes insomniaque, ça m'arrive de temps en temps, vous arrivez à 3h30, 4h, 5h du matin, elle est déjà là. Alors voilà, on lit un peu ce que dit Manuela, on va sur son blog parce que Manuela, en fait, elle a mis la distance aussi, elle a appelé Carlo le carcinome, donc
c'est le cancer. L'acronyme,
voilà,
de mon carcinome lobulaire, le I de infiltrant, je l'ai laissé tomber.
Voilà.
Et donc au début le blog, c'est Carlo qui parle. Dans
voilà,
le livre,
et on connaît
pas
Carlo.
Ça.
Voilà, oui, mais moi justement, j'étais un peu déçue, j'ai pas vu Carlo.
Et puis Carlo,
mais
il est vraiment bête. Enfin, oui. C'est un cancer, il est vraiment, je peux le dire à vos auditeurs, il est très con, Carlo.
Voilà, et bon, y a cette distance là de la malade, mais qui se heurte effectivement à la distance, et je pense quand même elle est nécessaire pour les médecins, c'est-à-dire que s'ils t'humanisent, s'ils connaissent Manuela, ils auront du mal après, ils sont obligés d'être hermétiques aussi, je pense, sur un certain point ils se protègent, mais c'est vrai que leur protection parfois est assez inhumaine.
Oui, mais c'est ça, parce que là ce qu'elle montre, c'est pas une protection, c'est parfois quelque chose d'humiliant. Elle montre
un manque d'humanité, un manque de connaissance.
C'est pas forcément les médecins. Je pense que c'est pas forcément les médecins. Il y a des humiliations qui sont venues de médecins, mais ça n'est vraiment pas la majorité des cas. Ni mon chirurgien, ni mon oncologue, qui ont été les gens qui m'ont pris en charge le plus longtemps dans ce parcours, n'ont d'attitude de ce type-là. Après, il y a des fois un manque d'écoute et d'attention, mais l'humiliation, elle vient d'un système, et elle vient de personnel pas assez formé. Et donc, c'est que un problème de financement. Moi, ces derniers jours, à cause de la sortie du livre, j'ai publié sur le blog une lettre ouverte au centre Léon Bérard, qui est le centre où je suis soignée à Lyon, en leur disant, moi je suis prête à rencontrer vos soignants, c'est-à-dire ils lisaient le blog, ils ont lu tous le blog pendant toute la période, et j'ai eu des retours d'infirmières qui disaient, on adore, on se marre. Bon, après, ceux qui n'aiment pas, je les ai pas entendus, il y en a que ça a dérangé, je pense que mais l'idée, c'est de les faire réfléchir à leur pratique. Moi, je ne suis pas juste là pour raconter mon histoire. C'est de dire, comment vous nous traitez? Mais j'entends que des fois, ils n'ont pas le choix en termes d'organisation. Les plannings sont mal faits.
Justement,
oui. Enfin, proposer le docteur Nichon quand même. Voilà. Enfin, je veux dire, le docteur Nichon.
Il n'est pas médecin,
il est psychologue.
Oui, psychologue.
Ouais. Enfin, le psychologue qui s'appelle Nichon pour parler du cancer du sein, vous-même, dites, mais eux-mêmes, dans les équipes médicales, ils devraient se dire.
Ce monsieur que je n'ai jamais rencontré, donc, pourrait se faire appeler par son prénom, parce qu'on ne change pas son nom. Enfin, il fait sa pratique. Ça devait être sa cause, un appel comme ça, inconscient, formidable. Mais, il l'appellerait, je sais pas quel est son prénom, Pierre, Philippe, Paul ou Jacques, ça dérangerait personne.
Oui, parce qu'aller parler du cancer du sein avec le psychologue Nichon, ça désamorce même un peu le truc, quoi.
C'est pas possible, quoi.
Personne peut y aller dans ces cas-là, ouais. Alors, on continue d'en parler avec Lou. Fuck my cancer, vous préférez qu'on dise en français nique mon cancer?
Non, j'aime bien fuck, parce que d'abord.
Vous avez dit, oui, c'est nique mon cancer. Parce que
la traduction littérale.
Merde à mon cancer. Mais vous êtes en train de le niquer, ce cancer, ou pas?
Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe pas trop mal. Quand j'ai arrêté d'écrire ce livre, puisque le récit s'arrête au mois de juillet de l'année dernière, il y a eu de multiples aventures depuis, mais j'ai passé un PET scan il y a très peu de temps, et la bonne nouvelle, c'est que la tumeur infiltrante est en train de régresser, et donc d'un autre côté, il est toujours actif, hein, je veux dire, les marqueurs cancer sont toujours au même niveau, donc nous attendons de nouvelles aventures, mais j'ai bon espoir, puis de toute façon, comme je le dis, je profite de chaque minute.
Manuela Viller, Fuck My Cancer, le livre est aux éditions Fayard, on va continuer de parler avec elle, de ce parcours, de cette manière qu'elle a parlé de sa maladie, elle a mode grande gueule, c'est notre GG du jour.
RMC, Alain Marchal, les grandes gueules.
Franck Tanguy, Fatima Hidbounoua, Marianne Soubré et notre Gégé du jour, parce qu'elle parle de sa maladie, elle parle du cancer d'une manière grande gueule. C'est ce qui nous a plu, c'est pour ça qu'on voulait vous l'écoutiez. Manuela Villers, Fuck My Cancer aux éditions Fayard. Fatima Hidbounoua, question, puis on continue la discussion, bien sûr.
Alors, le sous-titre, c'est Autopathographie sans pitié. Oui. Donc, il y a un petit jeu sur l'étymologie grecque. Alors, c'est amusant parce que vous qui avez été exclu de votre cours de grec,
oui,
au
votre
collège.
Cours en tant que prof de français, ça a dû vous parler.
Ouais, ça m'a amusé. Mais alors, donc, autopathographie, c'est, on s'attend donc à l'histoire de la maladie, mais je trouve que vous allez au-delà de ça. Parce qu'on a aussi une autobiographie en creux, en fait. On apprend à vous connaître, on apprend votre rapport à la féminité, votre façon d'être mère. Vous revendiquez vraiment mère juive, la mère nourricière sans sein. Donc vous faites des gâteaux, des brioches, hein, les seins ont disparu, mais la mère est encore plus là. Et j'aime cette redéfinition aussi de la femme. C'est-à-dire, vous avez eu un cancer de l'utérus avant, donc vraiment vous avez été attaquée dans votre féminité.
Oui, c'est la même famille de cancers. C'est des cancers qui sont hormonodépendants, sauf que la première fois à 32 ans, on ne me l'avait pas dit, sinon j'aurais été peut-être un petit peu plus vigilante.
Et vous aviez déjà fait vos 4 enfants ?
Ah bah oui, sinon parce que par l'oreille ça ne marche pas du tout. Ouais. Hein. Et j'ai pensé, hein, j'ai demandé, mais non, ça ne marche pas. Et le rapport à la nourriture, pour revenir, je ne veux pas vous éviter.
La mère ashkénaze.
Moi, je suis la mère ashkénaze, l'archétype de la mère ashkénaze, la mère juive de Woody Allen, enfin toutes ces femmes qui nourrissent leurs enfants et qui, quand ils mangent pas, disent « tu m'aimes pas, tu manges pas ». Et les mères italiennes, les mamas,
les mères arabes.
Voilà, on se retrouve. La nourriture, c'est l'amour. Et après, vous étonnez pas qu'on ait un peu de surpoids, quoi.
Non, mais c'est surtout ça permet de continuer de vivre, quoi.
C'est le rapport à la vie.
Faire à bouffer, montrer aux autres qu'on les aime.
L'anorexie est une maladie suicidaire. Ouais. Nourrir nos enfants, leur donner de l'amour, leur faire ce qu'ils aiment, parce qu'on aime nous. Moi, c'est vrai que on parlait des brioches que je fais tôt le matin et qu'ils se réveillent avec l'odeur de pain chaud. C'est mon plus grand plaisir maintenant de voir mes petits-enfants descendre et manger... ce que j'ai fabriqué, parce que je suis réveillée à 3h du matin et que je ne sais pas dormir. Mais...
Ça aussi, Bandit et Pirate, c'est drôle. On dit ça que le bonheur n'a pas d'histoire et est difficile à raconter, mais vous racontez bien ces belles journées, le jour parfait. Vous racontez bien, c'est ce qu'on lit aussi à travers votre livre, votre amour de la famille.
Oui, parce que vous dites, côté Fuel, j'ai choisi amour, cuisine et colère. C'est ce qui vous a permis de vivre avec la maladie. Mais en fait, je n'ai pas choisi. Ça s'est imposé à vous-même. C'était question de survie pour vous, quoi, en fait.
Oui, alors l'amour et la cuisine étaient déjà là avant le cancer, c'est la colère. J'étais toujours une femme, une jeune fille et une enfant en colère.
Une emmerdeuse, oui, aussi. Mmh.
Ça aussi, mais en colère, enfin, ma mère racontait que quand je suis née, j'ai pas voulu respirer. Je pense que elle disait, on avait l'impression que t'étais trompé de famille, tu voulais pas venir là. Bon, après, ils m'ont tapé dessus et j'ai respiré. Et donc, je pense que la colère, je suis une militante antiraciste depuis fort longtemps, la colère m'anime. Donc, j'étais en colère contre l'injustice qui m'était faite, mais il n'y avait pas de coupable. Alors, certains, comme vous l'avez lu, ont lu des phrases formidables en parlant de mon... Oui, mais tu fumes, alors c'est normal que t'aies un cancer. Bon, sauf que c'est un cancer qui apparaît à cause des hormones, parce que c'est un cancer de femme. Que je fume, bien sûr, c'est sûrement un risque, mais c'est pas pour ça que j'ai eu un cancer.
Franck.
Moi, d'abord, je voulais vous remercier parce que je vous racontais un poil ma vie. Hier soir, je suis arrivé très déprimé. Je suis rentré tard du bureau. Il était 10h, 10h30. Je me suis fait à manger un petit peu tout seul dans ma cuisine. Et puis, j'ai commencé à prendre le bouquin. Et j'ai éclaté de rire. Et j'ai pleuré. Je me suis assis dans un fauteuil, je me suis servi un whisky, un petit cigare. Parfait. Et j'ai lu jusque tard dans la nuit. Et à 5h du matin, j'étais debout pour finir le bouquin. Et puis j'ai pensé à mes amis, à Sylvia qui a eu une double mastectomie préventive, à mon filleul qui est mort d'un cancer de 6 ans, mort d'un cancer du cerveau, à mon papa qui est toujours là, à Jérémy qui a actuellement 40 ans et a un cancer du cerveau. Et je me suis dit que vous preniez la parole pour ces gens-là aussi. C'est-à-dire pour tous ceux qui n'ont pas la parole. Tous ceux qui sont malades, qui savent pas la prendre, qui ne peuvent pas la prendre. Et je voudrais juste dire que c'est un bouquin pour eux aussi, et pour tout le monde, parce qu'on se marre dans ce bouquin. Et vous avez mis... on est à la fois dedans, hein, on a les mains dans le cambouis et rien ne nous est caché. mais en même temps, vous prenez de la distance. Vraiment, j'ai. Merci.
Je vous remercie parce que je ne représente personne. Je ne me prétends pas être la porte-parole des malades ni d'un mouvement quelconque. Je n'ose pas. Et j'ai une petite détestation personnelle pour les malades experts. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce schéma. Mais moi, ce que je remarque, parce que le blog existe depuis presque 2 ans et que je reçois des messages, c'est que les gens me disent qu'ils sont malades. Merci. Merci parce que tu décris ce qu'on vit, que tout le monde ne sait pas faire un blog, que voilà. Et donc, merci d'avoir noté ça. Moi, j'ai un ami qui m'est très cher, il a 44 ans, il a 14 tumeurs au cerveau, il pense à faire le Guinness des records. Coucou, tu sais qui tu es. Mais je crois qu'il y en a qui ont, hélas, pire. Je sais que c'est rien, mon cancer du sein. Je veux dire, dans l'échelle des saletés possibles, le cancer est une ordure. Mmh. C'est une maladie qui vous frappe par surprise, qui vous prive de gens que vous aimez. Et qui vous réduit souvent au silence. Ce qu'il faut, c'est que l'institution permette la prise de parole. Je milite, la seule chose pour laquelle je milite, c'est qu'on crée dans les centres de lutte contre le cancer, dans les hôpitaux, les CHU, dans les hôpitaux régionaux, dans les cliniques, un médiateur humaniste qui fasse le lien entre le malade, qui n'est pas dans la capacité de verbaliser ou de dire tout seul, j'ai mal, mais vous savez, ça va pas, et qui a pas besoin de voir un psy, forcément.
Des groupes de parole, en fait.
Non. Non. Un rapport de 1 à 1, où on prend le temps d'écouter.
Et on n'est pas choisi.
Ça coûte cher. Où on est un être humain dans sa totalité.
Donc quand vous entendez le cancer, grande cause nationale, ça vous fait marrer, quoi, en fait.
Non, ça me fait pas marrer. Ce que j'aimerais, c'est que l'argent aille au bon endroit.
Et pourquoi il va où, l'argent?
Ah, ah. Ça, c'est un vrai problème. Moi, je ne suis pas détective ni journaliste. J'aimerais bien que des journalistes d'investigation suivent les budgets et regardent où va l'argent. Le Centre Léon Bérard, par exemple, a besoin d'argent pour la recherche. Ils font appel à des dons. Enfin, c'est des gens très, très dynamiques. Et ils ne sont pas fermés à des améliorations. C'est des gens qui se posent des questions. À Gustave Roussy aussi. Moi, je parle de là où je suis, donc je ne vais pas rentrer. Le problème, c'est que quand vous avez besoin de nouveaux bâtiments, ça coûte extrêmement cher, les matériels de diagnostic, le personnel.
Le personnel, oui. Ouais.
On parlait des infirmières. Les infirmières qui travaillent en cancérologie pédiatrique, donc qui s'occupent d'enfants atteints de cancer, elles ne tiennent pas 6 mois. Parce que ce sont toutes des jeunes mères et que ça les atteint au plus profond. Il y a besoin, on n'imagine pas quels sont les besoins. Puis les autres besoins, c'est quand le malade rentre chez lui et qu'il est tout seul.
C'est ce que vous racontez dans le livre, justement.
Il est tout seul. Et puis après, la Sécu vous dit que vous n'avez plus droit à vos indemnités au bout de 6 mois. Et donc, vous avez une pension d'invalidité. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un mari qui vit avec moi, qui ne m'a pas quitté au diagnostic.
Ce qui arrive.
Ce qui est extrêmement fréquent.
Ça arrive, ouais.
Et ma pension d'invalidité, j'ai pas honte de le dire, c'est 820 euros. Imaginez que je n'ai pas de mari avec moi. Moi, j'ai encore 820 euros, ça, je gagnais ma vie correctement. Enfin, j'avais une activité professionnelle avant.
Vous l'avez plus, d'ailleurs?
Ah ben non, j'ai plus rien, moi. Je suis
Marianne, puisqu'il nous reste une minute.
Oui, je voudrais juste dire aussi aux auditeurs que ce livre est essentiel parce qu'on appelle un cancer, cancer. Ouais. Je commence à en avoir assez aussi.
Ah,
des gens
aussi.
Qui disent, maladies, notamment, il y en a un très connu qui est mort il n'y a pas longtemps, oui. Malheureusement pour lui. Et on a dit, il est mort d'une longue maladie. Ah, j'en ai marre. Moi, je veux que les gens n'aient pas honte de dire, j'ai un cancer. Ouais. Que nous, on ne parte pas en courant quand les gens, parce qu'il y a ça aussi, c'est ça aussi qu'on voit,
oui,
dans ton livre, Manuela.
Pas, hein.
Voilà, mais moi qui ai eu beaucoup de malades autour de moi, on est tous submergés par ce mot-là, alors que ce mot-là, finalement, surtout quand on lit le livre, on le relativise. Une maladie est une maladie. Voilà, il y a des médecins qui t'aident, et puis il y a toute cette humanité qui fait que, voilà, tu te bats, et on a tous envie, en plus, on se bat tous avec toi, c'est ça qui est génial.
Elle a pensé à se suicider, mais elle est avec nous
oui,
aujourd'hui, Manuela Villard. Le mot de la fin.
Non, mais pour conclure. Fatima. On peut dire que vous êtes un peu l'anti Belle Gibson.
Oui.
C'est la blogueuse australienne
menteuse,
qui avait menti, voilà,
oui,
en disant qu'elle avait un cancer du cerveau. Et pendant 2 ans, elle a menti. Elle s'est fait beaucoup d'argent autour de cette cause, application Apple et tout ça autour de vivre sainement. Elle a donné de faux espoirs à beaucoup de gens. Donc vous, c'est le contraire.
Non, moi, j'ai vraiment plus
c'est
ça.
C'est l'authenticité. C'est pas une blague. Montre, hein. Vous n'avez pas les images. Non, elle nous montre pas ses seins, mais elle nous montre la chemise.
La chemise est vide.
Je vais pas vous montrer mes cicatrices. Je ne suis pas exhibitionniste.
J'ai aimé le Tony Montana. Vous avez dit Tony Montana du thorax.
Scarface. Oui, la Tony Montana du thorax, c'est moi.
Donc, on est très heureux de recevoir Tony Montana du thorax.
Manuela Villers, chronique sans eau de rose de son cancer. Fuck my cancer. On voulait vous la faire écouter. Maintenant, à vous de la lire. C'est un témoignage qui est fort, qui est puissant. Notre manière de parler de sa maladie, à la mode grande gueule et à son blog à votre disposition aussi. C'est aux éditions Fayard. Dans un instant, le match.
RMC, Alain Marchal, le match des grandes gueules.
Allez, ce match des grandes gueules, nous allons le disputer avec Vladimir, facteur en Seine-et-Marne. Bonjour.
Bonjour les GG.
Bonjour Vladimir. Avec Franck et avec moi. Et puis, on va rester en Seine-et-Marne avec Valérie, qui est cadre dans la banque. Bonjour Valérie.
Bonjour les grandes gueules.
Et ça va être le match des filles puisque vous allez jouer avec Marianne et Fatima et c'est Paul Larocque qui va poser les questions.
C'est moi-même,
producteur du show. Allez, on
les
y va.
Mes chères grandes gueules, bonjour. Alors qui a dit à propos de Juppé, si j'en avais l'énergie, j'aurais déjà réservé ma place, même une petite à son QG.
Chirac.
S'il faut venir coller des enveloppes, je
Jacques
viendrai.
Chirac.
C'est tout à fait. C'est Jacques Chirac.
Okay. Wow.
Rapide, hein. On va suivre.
Qui a dit... Sauf qu'elle joue contre vous, Vladimir.
Vous pouvez me féliciter, Vladimir.
Qui a dit, je cherche des patrons, je ne les trouve pas, on me dit qu'ils sont en vacances.
Mélenchon ?
Non.
Hollande ?
Bah non.
Valls ?
Non.
Sapin ?
Oui. Vous pouvez tous les faire comme ça.
Ah ouais, c'est non, bien. Là, j'étais loin.
Moi aussi.
Qui a dit, à la dernière présidentielle, j'ai voté Hollande par dépit joyeux, pour sortir l'autre imbécile. Est-ce que le rictus de Sarkozy après sa défaite vaut 5 années de Hollande ? Peut-être bien.
Bachelot, non, c'est pas
non.
Bachelot.
Alors là, on quitte un petit peu la politique. Donc on est dans le domaine du artistique, si je puis dire.
Artistique,
hein. Oui.
C'est un homme ?
Oui, oui, oui. Là, il a fait parler de lui pas mal hier, parce qu'il dessinera plus certaines choses.
Lousse.
Tout à fait.
Pourquoi j'ai appelé Lousse ? J'ai dit Lousse.
Qui a dit ? Qui a dit, François Hollande, je le soutiens toujours, oui, mais c'est un mec trop normal. Je me souviens d'une scène à l'Élysée où il éteignait des salons.
Léonard Trierweiler.
Il éteignait des salons parce qu'il disait que ça coûtait trop cher.
Il éteignait toutes les lumières après la fin des réunions.
De tous les salons.
Il éteignait toutes les lumières des salons.
Alors ça, c'est très bien.
Qui a dit, les barreaux, ça rend ouf, j'avais envie de mourir, mais après, je me suis dit que j'étais trop belle pour mourir. Nabila, désolé, ça fait deux jours que je cite Nabila, mais elle est quand même magnifique.
4-1.
Ah ouais, non, là.
C'est vraiment la championne des collages.
Qui a dit, c'est sûr, tout est rapide, tout va vite, mais je garde le contrôle. Alors, comme elle est un peu générique, je vous aide. Elle a beaucoup de succès, cette Française, en ce moment, notamment à l'étranger.
C'est Louane.
C'est Louane.
Je ne m'enfuis pas, je
ça refuse aujourd'hui, je peux rien dire. Allez Valérie, je viens vers vous avec le vrai pas vrai. Le vrai pas vrai, Valérie.
Ok.
La colle sur les enveloppes israéliennes est certifiée cachère. Vrai ou pas vrai?
La
colle sur les enveloppes israéliennes est certifiée cachère.
Oui, je dirais oui.
Eh bien, c'est vrai. Tout à fait. Un point.
Tiens,
puisqu'on a beaucoup parlé de la jupe, Vladimir, là, je m'adresse à vous.
Oui.
Eh bien, en Italie, le port de la jupe est interdit par la loi pour les hommes. Vrai ou pas vrai?
C'est pas vrai.
Eh bien, écoutez, c'est vrai. Alors, évidemment, c'est une loi. C'est pas sûr qu'elle soit appliquée, hein, mais apparemment, c'est une mesure qui a été prise parce que, enfin, voilà, les Italiens voulaient lutter contre ce qu'ils appellent l'indécence vestimentaire. Alors, allez savoir ce que
c'est. Ça fait 4-3 et c'est terminé.
Vladimir,
c'est
quand
fini,
même.
Vladimir. Désolé, Valérie, sur le fil, c'est vous qui gagnez, Vladimir. Je vous dis ce
merci,
que vous gagnez, le t-shirt des grandes gueules. Et puis surtout,
merci,
vous gagnez un séjour d'une semaine, Vladimir, hein, pour 6 personnes dans le Lot, résidence Lagrange Confort Plus Kid, le domaine des Cazelles. Village composé de maisonnettes sur une colline avec vue sur la vallée du Lot. Vous serez logé en maisonnette duplex chez Lagrange Vacances, mon cher Vladimir.
Merci beaucoup, merci les GG.
Ça va, vous trouverez 5 personnes pour vous accompagner.
Oh oui, vous inquiétez pas.
Je vous fais confiance. Salut Vladimir, bonne journée.